France Culture.
Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une large part de ce journal sera évidemment consacrée aux frappes israéliennes sur l'Iran, frappes qui ont continué aujourd'hui sur de nombreuses cibles militaires et nucléaires notamment. Le pouvoir iranien promet ce soir l'enfer à Israël en représailles, les mots du pouvoir iranien bien sûr, et les mots des Iraniens, ce ne sont pas exactement les mêmes, vous l'entendrez. Nous reviendrons également sur les frappes de la nuit dernière, comment Israël a lancé son opération Lion Rising, les détails avec Thibault Lefebvre. Instabilité régionale et inquiétude internationale, toutes les mesures seront prises pour protéger les Français, indique Emmanuel Macron. La France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité, dit le chef de l'État. Dans ce contexte, le prix du dollar monte. Peut-il continuer à grimper? Réponse dans ce journal. Et puis nous irons également à Nice rejoindre Véronique Rébérotte pour la fin du sommet de l'ONU sur les océans. Un document de 12 pages synthétise les accords qui ont été trouvés. Ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans une petite heure et en urgence. Depuis ce matin, le monde retient son souffle et observe ce qui se passe en Iran. Les frappes israéliennes sur les installations nucléaires et militaires iraniennes se sont poursuivies dans la journée. Elles pourraient durer plusieurs jours. Au total, des dizaines de cibles et l'armée israélienne a également visé le pouvoir iranien, notamment le chef d'état-major de l'armée et celui des gardiens de la révolution qui ont été tués. L'Iran a dans un premier temps envoyé des dizaines de drones ce matin en représailles et promet ce soir donc les portes de l'enfer à Israël, je cite. Rhétorique classique en attendant de nouvelles représailles, Marie-Pierre Véraud.
L'Iran promet donc de réagir par la voix de son président Pezeshkian. Il annonce une réponse puissante et légitime.
Cet acte brutal, contraire à toutes les obligations internationales, confirme la nature criminelle du régime sioniste illégitime qui a bâti son existence sur l'occupation, l'agression et l'infanticide. Bien sûr, la nation iranienne et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime. Et la réponse légitime et puissante de la République islamique d'Iran fera regretter à l'ennemi son acte insensé.
Alors, légitime, certes, elle l'est au regard du droit international. L'Iran a été attaqué, il a le droit de se défendre, mais puissante, cela reste à voir, parce que ce sont des attaques à la fois ciblées, mais également massives, qui ont visé les sites militaires iraniens, les rampes de lancement de missiles, les sites nucléaires, notamment la centrale d'enrichissement d'uranium de Natanz, à deux reprises, et qui ont décapité à la fois l'état-major et le corps des gardiens de la Révolution. Alors, certes, les têtes de ces deux institutions fidèles au guide Ali Khamenei, l'armée et les gardiens de la Révolution ont promptement été remplacés, mais le plus proche conseiller du guide suprême, qui avait pris d'ailleurs la tête du programme nucléaire récemment, a également été frappé et 6 ingénieurs scientifiques, architectes de ce programme nucléaire, ont également été éliminés. Et ces attaques, elles ont ciblé les plus hauts dignitaires du régime jusque dans leur résidence, au cœur de la nuit, dans des quartiers cossu de Téhéran. La puissance des frappes a terrorisé la population de la capitale. Les autorités font état de plusieurs morts, 8 notamment à Tabriz, et d'une centaine de blessés.
Marie-Pierre Véraud et les médias locaux font savoir que de nouvelles explosions sont entendues à Téhéran et ses environs ce soir. On parlait de Natanz tout à l'heure. À l'instant, l'AIEA fait état de niveau de radiation inchangé à l'extérieur du site après la nouvelle attaque israélienne. L'opération est très spectaculaire. Et meurtrière donc. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir à tous.
On en sait ce soir un peu plus sur la façon dont s'est préparé et déroulé ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle l'opération Lion Rising.
Oui, ce qu'on le sait, c'est que c'est une attaque hybride au sol et dans les airs coordonnée de Tel Aviv à environ 1500 km des cibles. Alors le premier pilier de cette opération, c'est l'aviation. 200 chasseurs, dont des engins furtifs américains de type F-35 capables de passer sous les radars ont été mobilisés. C'est plus de la moitié de la flotte israélienne, ce qui est sans doute inédit dans l'histoire des batailles aériennes. Et puis le deuxième pilier, c'est le Mossad, les services secrets extérieurs israéliens. Des agents infiltrés ont mené des missions de sabotage sur des batteries de missiles anti-aériens, notamment pour permettre aux avions de ne pas être repérés et abattus. C'est une réussite stratégique totale. Tous les engins sont passés entre les mailles du filet et ont pu larguer leurs bombes. Et puis c'est peut-être être l'opération la plus aventureuse ou en tout cas la plus originale de l'attaque de la nuit dernière. Le Mossad a introduit clandestinement des drones sur le territoire iranien. Ses agents les ont stockés pendant plusieurs jours, puis les ont déclenchés dans la nuit pour détruire notamment des lanceurs de missiles sur une base militaire à proximité de Téhéran. Ce dispositif rappelle l'opération Toile d'araignée déclenchée, souvenez-vous, par les Ukrainiens en Russie il y a une douzaine de jours, quand des drones cachés dans des containers en bois disposés sur des camions ont décollé du territoire russe pour détruire des avions au sol.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Ce soir, Benjamin Netanyahou indique qu'Israël s'attend à être exposé à plusieurs vagues d'attaques iraniennes. L'Iran qui prépare donc sa riposte. Comment la population iranienne vit-elle tout cela? Les opposants au régime soutiennent-ils l'attaque israélienne? Témoignage depuis l'Iran, recueilli par téléphone par Noé Pignède. Leur voix et leur nom ont été modifiés pour les protéger.
Dans le secret des foyers iraniens, les opposants à la République islamique se réjouissent de l'opération israélienne. Cette nuit, Omid a été réveillé par les frappes.
La situation n'est pas agréable, mais les gens ont moins peur d'Israël que du régime. Tout le monde déteste le gouvernement et les commandants des gardiens de la révolution. Donc, tant qu'ils ne ciblent qu'eux, tout le monde est content.
Et comme lui, Kamran, 36 ans, qui se définit comme un résistant, espère qu'Israël aidera les Iraniens à faire vaciller le régime, leur ennemi commun.
Je ne crois pas que les Israéliens et Netanyahou se préoccupent vraiment du sort des Iraniens, mais ils y ont un intérêt stratégique. C'est pour ça que, pour l'instant, ils limitent les dommages collatéraux.
Mais certains s'inquiètent de la rhétorique de Benjamin Netanyahou qui promet de libérer les Iraniens de la tyrannie, comme il promettait de libérer les Gazaouis du Hamas. Daria nous envoie ce message de Téhéran.
La liberté ne naît pas des bombes, de la violence, ni par un état criminel qui ne cesse pas de tuer des enfants et des femmes innocents. L'Iran a toujours été libéré par ses propres enfants. Jamais on réclame la liberté par des mains tachées de sang des Israéliens.
Les Iraniens attendent désormais de voir la puissance de la riposte annoncée par la République islamique, riposte qui pourrait faire basculer toute la région dans une nouvelle spirale de violence.
Noé Pignède, de son côté, silence ce soir des États-Unis. Côté américain, Donald Trump réunit en ce moment son Conseil de sécurité nationale. Sébastien Paour, quelle est la position des Américains vis-à-vis d'Israël ce soir?
En tout état de cause, les États-Unis seront derrière Israël, comme Biden l'a été en octobre dernier quand Téhéran et ses proxys ont tiré des dizaines de drones vers le sol israélien. Trump doit parler à Netanyahou aujourd'hui, d'après la chaîne conservatrice Fox News, et les États-Unis se préparent déjà à la riposte iranienne. Plusieurs bâtiments de guerre américains se rapprochent des côtes israéliennes en Méditerranée. Une autre réunion militaire, celle-là, a eu lieu ce matin dans ce qu'on appelle le tank, le bunker de commandement situé sous le Pentagone, à côté de Washington, réunion des hauts gradés du département de la défense, parce que l'Iran pourrait aussi viser des cibles américaines dans la région. Donc l'Amérique va rester aux côtés d'Israël. D'ailleurs, d'après le site Axios, généralement bien informé, en particulier sur Israël, l'attaque de cette nuit aurait été coordonnée avec Washington. Trump et son entourage faisaient seulement semblant de s'opposer à une attaque par Israël, mais en privé, ils ont clairement donné leur feu vert. Axios va même plus loin. Le site explique que l'objectif de cette opposition publique des États-Unis à des frappes israéliennes était de faire croire à Téhéran qu'il n'y avait rien en préparation pour être sûr que les Iraniens visés par Israël ne se déplaceraient pas et que les cibles pourraient bien être atteintes. Tout cela, évidemment, n'est pas confirmé de sources américaines. Au contraire, la Maison-Blanche prend ses distances avec Israël depuis hier soir, dans ses déclarations publiques comme dans ses messages en direct avec ses alliés.
Sébastien Paour, on apprend ce soir, là, on vient de l'apprendre, que la conférence de haut niveau sur une résolution pacifique de la question palestinienne, cette conférence qui était prévue la semaine prochaine au siège de l'ONU à New York, eh bien, elle a été reportée. Cette conférence devait être co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite. L'Iran est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de pétrole. La conséquence directe de cette escalade, c'est que les cours du pétrole ont grimpé depuis hier de $65 le baril pour le cours du Brent. On est autour de $75. Une augmentation forte, mais encore gérable si elle reste à ce niveau-là, selon Francis Perrin, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il est spécialiste du marché du pétrole.
Il y a 3 ans en arrière, le début de la guerre en Ukraine numéro 2, au début du mois de mars, soit à peine 2 semaines après le début de cette nouvelle agression russe, le prix du Brent, comme brut de référence, a frôlé les $140 par baril. Là, au moment où nous parlons, nous sommes à environ $75 pour les prix du Brent, avec une forte hausse de l'ordre de 10%, ce qui est sur un jour et quelques heures est considérable, mais on est quand même très loin des niveaux très élevés que nous avions en 2022, guerre en Ukraine, et du niveau du record historique juillet 2008, $147 par baril. Si on restait à environ $75 par baril, ce serait, je dirais, supportable par les importateurs et les consommateurs. Leur crainte, c'est que ça puisse monter plus haut, soit parce qu'il y aurait des représailles iraniennes contre Israël qui entraîneraient des représailles israéliennes contre l'Iran, soit parce que l'Iran ciblerait le pétrole au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Pour l'instant, la hausse est très forte, très brutale, mais on peut, je dirais, économiquement, vivre avec un pétrole Brent à $75 par baril.
Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, il était interrogé par Marie Viennoux. Le sommet de l'ONU sur les océans est en train de s'achever. À Nice, tout au long de la semaine, 64 chefs d'État et de gouvernement seront passés à la conférence. Conférence qui aurait été la plus importante en termes de participation. En ce qui concerne les résultats, un document et des engagements sur une douzaine de pages. Le principal sujet étant la future ratification du traité sur la haute mer, acté par une cinquantaine de pays et par une douzaine d'autres pour 2026. Bonsoir Véronique Rébérotte.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Nice. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'une impulsion a bel et bien été donnée, notamment par la France, pour la protection des océans. Mais derrière, il faudra du concret.
Exactement. D'abord, la cérémonie de clôture n'est pas tout à fait terminée. L'adoption des engagements de Nice pour l'océan sera saluée dans quelques minutes par les cornes de brume des bateaux à quai dans le port de Nice. Mais il faut encore attendre un peu pour entériner quoi? Eh bien d'abord, et vous l'avez dit, c'était la priorité de la France. Il y a désormais assez d'États prêts à ratifier le traité sur la haute mer. Le quota pour son entrée en vigueur n'a pas tout à fait été atteint à Nice, mais la France n'a aucun doute sur le fait que ce sera fait avant fin septembre. Un traité qui va permettre donc de protéger deux tiers des océans, des eaux internationales. Pour Romain Troublé, le directeur de la fondation Tara Océan, c'est un très beau résultat avec à la clé l'organisation de la première COP spéciale océan.
Moi j'ai bon espoir qu'avant la Assemblée générale de l'ONU, qui chaque année a lieu en septembre à New York, on puisse avoir le traité ratifié. Et ça veut dire que la première COP aura lieu un an plus tard. Donc tout ça va s'accélérer. Et c'est franchement une victoire. Nous, on a suivi ce traité pendant 12 ans, tous les 6 mois, pour négocier. Et de voir ce traité aboutir aussi vite, c'est franchement une victoire.
Mais tout reste à faire. Quels espaces protégés? Précisément qui pour contrôler? Avec quels moyens financiers? On ne rentrera dans le vif du sujet bien que l'année prochaine. Autre gros sujet de discussion ici, l'exploitation des grands fonds marins et leurs minerais. Les abysses ne sont pas à vendre, avait dit Emmanuel Macron en début de semaine. Les grands fonds ont obtenu à Nice, un répit. L'extraction des métaux rares au fond de l'océan serait un désastre, on le sait, environnemental. Il y a désormais assez d'États, une coalition de 37 pays prêts à bloquer l'adoption d'un code minier des profondeurs marines. Écoutez Olivier Poivre d'Arvor, c'est l'ambassadeur des pôles et des océans pour la France.
Le code minier était prêt à être signé à la mi-juillet. Et là, la réaffirmation par maintenant 37 pays qu'ils voulaient un moratoire fait que le code minier ne sera pas signé et que donc on ne pourra pas commencer légalement l'exploitation des grands fonds marins. Alors je pense que les États-Unis ne feront pas ce qu'ils disent parce qu'ils perdraient beaucoup d'argent. Mais nous avons arrêté en tout cas. Mais le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé et nous, notre objectif, c'est de pouvoir avoir au moins la moitié des pays qui s'opposent à une exploitation immédiate. Mais enfin bon, déjà avoir une pause de précaution de plusieurs années, c'est quand même une grande victoire.
On note aussi de 10 bits avancées contre la pêche illégale. Plusieurs États aussi, surtout la Grande-Bretagne, ont annoncé de nouvelles aires marines protégées. Annonce modeste d'un côté français et critiquée par les ONG qui parlent d'ambivalence de la France. En tout cas, cette conférence a montré que le multilatéralisme n'était pas mort. Il faut maintenant que les engagements de Nice, vous l'avez dit, se traduisent en actes.
Merci Véronique Rébérotte en direct de Nice avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. L'une des boîtes noires du Boeing 787 d'Air India qui s'est écrasée hier après son décollage d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde, l'une des boîtes noires a donc été retrouvée. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui s'est passé lors de ce crash qui a causé la mort d'au moins 265 personnes. Et puis, effet collatéral de cet accident meurtrier, le patron de Boeing annule sa venue au salon de l'aéronautique du Bourget la semaine prochaine, officiellement pour se concentrer sur l'enquête et la compagnie Air India, son client. Évidemment, cette catastrophe risque aussi de jeter une ombre au programme de l'avionneur américain, même si l'on ne connaît pas encore la cause de l'accident. Bonsoir Valentin Grillet.
Bonsoir Nicolas.
La compagnie américaine devrait tout de même être présente au Bourget, mais ne prendra pas la parole quant à ce nouvel accident.
Non, car Kelly Hotberg s'en tient aux déclarations usuelles, rappelant que la sécurité est un pilier de la politique de Boeing, que ses experts techniques se tiennent prêts à porter assistance aux enquêteurs et qu'il ne faut pas spéculer sur l'accident. Mais ce retrait du Bourget reste une mauvaise nouvelle, au moins d'un point de vue médiatique, rappelle Gérard Felzer. Il est le président d'Aviation Sans Frontières.
Le Bourget, c'est le salon le plus important au monde. Ça tombe très très mal pour eux. L'enquête est en cours. Il y a des tas de micros qui vont se pointer en disant « alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils ne vont pas pouvoir y répondre. Donc, dans ces cas-là, on fait profil bas. Ce qui ne veut pas dire une baisse des commandes, hein, c'est une question d'image.
Car Boeing maintient néanmoins ses stands d'exposition, ce sont seulement ses dirigeants qui s'absentent. Et de façon similaire, le motoriste de l'avion, GE Aerospace, a aussi annulé des conférences prévues avant le salon. En vérité, Boeing ne connaîtra peut-être aucun retrait de commandes, car la demande est spectaculaire et que son seul concurrent est Airbus, dont les carnets de commandes débordent déjà. Le 737 MAX, pourtant incriminé dans les deux crashs de Lion Air en 2018 et Ethiopian Airlines en 2019, fait aujourd'hui par exemple l'objet de 4400 commandes en attente. Seule crainte de l'avionneur, que les autorités américaines, notamment le puissant régulateur de l'aviation civile, la FAA, ne mettent le nez dans la carlingue du Dreamliner. Elle pourrait en ralentir la production, le temps de faire le jour sur les failles techniques de ce qui restait jusqu'ici le fleuron de Boeing.
Merci Valentin Grillet. Arrêtons-nous un instant sur un angle mort d'un débat aujourd'hui très prégnant dans notre société, celui sur les écrans et leur impact sur les plus jeunes. L'addiction aux écrans, de cela on en connaît de plus en plus et de plus en plus souvent les effets négatifs de l'addiction, beaucoup moins concernant la stratégie de l'industrie numérique. Bonsoir Marie Dupin.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur cette stratégie pour faire rentrer à tout prix les écrans dans les écoles.
Oui, elle s'appelle Mascotte, Script & Go ou Manzalab. Depuis des années, ces startups bénéficient de millions d'euros de subventions publiques pour développer des applications ou des logiciels pour l'école. Parmi elles, Didask. En 2015, l'entreprise décroche un appel d'offres pour créer une plateforme pour les enseignants. Et pour ça, l'État a déboursé près d'1 million d'euros. Mais la plateforme n'a jamais été mise à disposition de l'éducation nationale. L'argent a surtout permis de développer des formations en ligne, vendue à des entreprises privées, comme on l'entend dans ce spot promotionnel.
Avec Didask et son IA pédagogique, formez vraiment vos équipes. Conçue par nos chercheurs en sciences cognitives, notre IA génère en quelques secondes un parcours e-learning complet à partir de votre contenu brut.
Aucune plateforme donc pour l'éducation nationale et pourtant la start-up a de nouveau remporté avec d'autres acteurs un nouvel appel d'offres publiques en 2023, cette fois de 7 millions d'euros, des subventions publiques qui profitent à des entreprises de la tech, mais aussi à des laboratoires universitaires censés garantir l'efficacité des outils numériques, des laboratoires en fait eux-mêmes proches de géants de la tech comme Facebook et Google.
Et puis Marie, il y a aussi Microsoft.
Oui, ça on le découvre dans les documents techniques d'un autre projet visant à créer une application pour aider les élèves à écrire, Caligo, un projet officiellement porté par une petite entreprise bretonne qui a en réalité pour partenaire Microsoft. Pour développer cette application, l'État au total a dépensé plus de 6 millions d'euros et 1000 élèves de maternelle ont été testés en présence d'ingénieurs dans des salles mises à disposition par Microsoft pour faire des exercices, comme l'explique Benoît Janin à l'origine du projet.
Dans ces exercices, on leur proposait de tracer des lettres. En même temps, ça permettait de prendre des empreintes pour aussi améliorer les moteurs d'intelligence. À partir de ces travaux, on a continué à améliorer les moteurs, donc les moteurs d'intelligence artificielle.
Et dans les documents de l'appel à projet, on découvre aussi que les tests menés sur les enfants dans la salle Microsoft ne visaient pas seulement à créer une application pour aider les élèves, mais aussi à comprendre, je cite, comment capter leur attention et comment améliorer les outils industriels. Écoutez un extrait de ces documents que nous avons fait lire.
La diffusion de la solution doit générer progressivement un taux d'équipement des écoles en tablettes. Les années d'expérimentation doivent également permettre aux constructeurs de développer ou d'affiner leur gamme de produits dédiés à l'éducation. Elles permettront également de tester de nouveaux produits répondant aux exigences de l'éducation nationale. Tablettes robustes, Coque de protection, stylet ergonomique, accessoires stylés notamment pour les exercices en classe de maternelle, chariot de rangement et de chargement.
Et finalement, l'application Caligo est aujourd'hui surtout commercialisée à l'étranger. Microsoft confirme avoir été partenaire technologique, mais assure que les données ont été captées uniquement par la start-up. Des géants de la tech derrière de plus petites entreprises pour faire entrer les tablettes dans les écoles. Cette stratégie ne surprend pas Bram Vranken. Il enquête pour l'ONG CEO sur le lobbying des acteurs de la Big Tech à Bruxelles.
Ce secteur déploie les formes les plus agressives et les plus manipulatrices de lobbying. Nous avons montré qu'il passe par des fonds d'investissement derrière lesquels on trouve la Big Tech. Et souvent, pour avoir une bonne image, ces fonds représentent de plus petites entreprises, des start-up. Mais les messages que portent ces start-up, ce sont ceux des lobbies de la Big Tech, comme Google ou Meta.
De son côté, le ministère de l'Éducation nationale rappelle qu'en maternelle, les équipements numériques individuels sont interdits et qu'en primaire, ils ne sont ni nécessaires ni souhaitables.
Merci Marie Dupin, votre enquête complète est à retrouver sur radiofrance.fr. Un mot du temps demain, du sud-ouest au nord, après les orages de la nuit, le ciel va rester très nuageux avec quelques averses. Les températures maximales de 20 à 25 degrés sur le nord-ouest, de 24 à 28 sur le sud-ouest, voire 30 à 35 degrés sur l'est. Ce journal est désormais terminé.